Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, mon acolyte en blouse blanche est avec moi dans ce studio. Ça vous fait rire parce que je ne sais même pas si vous la mettez de temps en temps la blouse blanche.
Je ne suis même pas sûr d'être un docteur.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Allez, au sommaire ce jeudi, dans notre grand dossier du jour, on va s'occuper de notre silhouette. Silhouette qui s'est peut-être un peu épaissie depuis un an. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Jimmy sait de quoi il parle. Les Français auraient pris en moyenne 3 kilos avec les confinements. Bref, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'affiner, de raffermir, de chasser les bourrelets disgracieux, mais sans chirurgie. Grâce au micro-ondes, au froid, au chaud, à la radiofréquence notamment, il est possible de se transformer. Pour nous détailler tout cela, nous recevrons le docteur Marie Jourdan, elle est dermatologue à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed fera un point sur les papillomavirus. Savez-vous comment ça s'attrape et surtout, comment les éviter ? Il nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous parlera des fantasmes parfois difficiles à avouer à son conjoint.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer cette émission par la question de Dylan, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Vous appelez, voilà, parce que j'ai une petite question. J'ai le vitiligo, donc j'ai une dépigmentation de la peau. Et le médecin m'a dit que ce serait peut-être un problème de thyroïde. Donc je ne comprends pas trop. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller ? Merci, bonne émission. Au revoir.
Merci beaucoup Dylan pour votre question. Et pour vous répondre précisément, nous avons interrogé pour vous le docteur Emmanuel Lecornet-Socol. Elle est médecin endocrinologue à Paris.
Le vitiligo, c'est une maladie où il va y avoir des taches de dépigmentation, donc des taches de peau beaucoup plus claires. Et en fait, c'est lié à une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est le système immunitaire qui va réagir contre soi-même et qui va dépigmenter comme ça la peau. Et en fait, dans les maladies de la thyroïde, les maladies les plus fréquentes sont aussi des maladies auto-immunes. Ce qui se passe, c'est que le système immunitaire, au lieu de fabriquer des anticorps contre les microbes, va se mettre à fabriquer des anticorps contre soi-même. Et le plus fréquent, c'est que ces anticorps soient contre la thyroïde. Beaucoup de maladies auto-immunes sont des maladies de la thyroïde. Et c'est très fréquent, en fait, même que les gens aient ces anticorps. On considère qu'à peu près 5 à 7% des gens dans la population générale ont des anticorps contre la thyroïde. Et effectivement, on a remarqué qu'il y a une association fréquente entre les gens qui ont du vitiligo et des maladies de la thyroïde, notamment la maladie de Hashimoto qui donne une hypothyroïdie ou la maladie de Basedow qui donne au contraire une hyperthyroïde.
Voilà, c'était le docteur Lecornet-Socol au micro de Barbara Silvera Sonigo. Alors Jimmy, on va prendre une autre question comme tous les jours. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Jean-Baptiste qui nous a appelé de Lyon.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Il y a 4 ans, j'ai eu une pancréatite aiguë et depuis, je ne bois plus, mais je ne vous cache pas que j'aimerais boire un verre de temps en temps. Est-ce que c'est possible d'après vous ou complètement déconseillé ?
Jimmy, on en a parlé il y a peu en ce moment, du coup, deux questions pancréatite en peu de temps finalement. Pouvez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est concrètement une pancréatite ?
Alors Mélanie, je pense que même vous pouvez répondre à cette question.
Oui, je pourrais, mais je préfère laisser faire le docteur.
Bah oui, laissez faire le docteur, venez voir le docteur. Alors, tout ce qui finit en « it » en médecine, c'est
l'inflammation.
Oui,
j'ai presque fait médecine.
Donc la pancréatite, c'est l'inflammation du pancréas.
Voilà, très bien. Alors, la cause de cette pathologie, est-ce que c'est toujours l'alcool ? Parce que lui, il a dit « j'ai arrêté l'alcool il y a 4 ans », donc ça semble être lié dans son cas. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Alors, si on prend 100 pancréatites, vous en avez 40 qui sont liées à l'alcool.
Quand même, ouais.
Et donc, 40 qui sont aussi liées à un calcul de la vésicule biliaire, un petit calcul qui va migrer jusqu'au pancréas. Et dans 20% du temps, on a des causes plus rares, comme le fait d'avoir des triglycérides très élevés ou une hypercalcémie. Alors, quand on parle d'alcoolisme, ce n'est pas simplement le fait de boire quelques verres. C'est vraiment un alcoolisme chronique prolongé durant de nombreuses années. À l'inverse, ce n'est pas parce que vous buvez du coup un ou deux verres de temps en temps que vous allez faire une pancréatite. Donc c'est vraiment des patients qui ont un profil très particulier, mais dont le traitement, pour éviter la récidive, est le sevrage alcoolique. Et ça, c'est peu négociable.
Alors comment on sait qu'on a une pancréatite d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous faire dire, enfin à nous déjà, avant de voir le docteur, attention, il faut peut-être consulter, c'est peut-être ça.
Donc la pancréatite, c'est l'inflammation du pancréas. Donc vous allez avoir des douleurs abdominales qui vont se situer au creux de l'estomac, c'est-à-dire au-dessus de votre nombril. Ça va être transfixiant, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ça vous perce le ventre jusqu'au niveau
donc
du
on
dos.
Passe pas à côté. Hein.
Les patients sont souvent en chien de fusil sur le côté tellement ils ont mal et souvent il y a des signes digestifs, à la fois des nausées et des vomissements et puis aussi un arrêt du transit puisqu'en quelque sorte votre tube digestif est agressé, il y a ce qu'on appelle un ileus paralytique et donc vous n'allez plus aux toilettes mais c'est pas une occlusion, c'est lié à la pancréatite.
Ah, vous avez fait médecine quand même, ileus pancréatite, très bien. On va répondre quand même à Jean-Baptiste précisément, il dit qu'il lui il est guéri de cette pancréatite, il demande peut-être attiré, qui sait, par les terrasses hier soir, les images des terrasses hier soir, est-ce qu'un verre de temps en temps, parce que lui semble avoir arrêté complètement l'alcool, c'est grave?
Je pense pas que ce soit très grave, mais bon, plutôt que de demander au docteur d'Europe 1 qui demande à son médecin traitant, oui, ça semble beaucoup plus raisonnable. Je pense qu'il y a peu de risques de déclencher une pancréatite, même si on a vu certains patients, lorsqu'ils avaient arrêté de consommer de l'alcool, lorsqu'ils se remettent à boire, mais un peu massivement, refaire une crise évidemment, même si dans l'intervalle, ils ont été sérieux. Ce qui veut donc dire que s'il veut boire un verre, peut-être pourquoi pas, puisqu'il ne faut pas être dans la frustration, mais vraiment avec modération, d'autant plus que l'alcool peut poser des problèmes au-delà du pancréas, surtout l'organisme. Donc soyez vigilants et demandez conseil éventuellement à votre médecin traitant.
De toute façon, la modération, c'est pour tous, hein, Jimmy, n'est-ce pas? Allez, Jimmy, comme si vous aussi, comme Jean-Baptiste, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. Bienvenue, docteur Marie Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à Paris, membre de la Société française de dermatologie. Et avec vous aujourd'hui, on va voir comment avoir un corps au top pour l'été. C'est vraiment le mantra de Jimmy en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission aujourd'hui. Mais bon, avoir un beau corps, ok pour l'été, mais pour tout le temps en fait, surtout pour toute l'année, ça serait souhaitable. Sans bistouri, c'est ça le pari du jour. D'abord, de quoi se plaignent finalement la plupart de vos patients qui viennent justement pour un problème au niveau de la silhouette? C'est quoi le plus fréquent?
Oui, parce que j'allais dire, elles se plaignent beaucoup de leur mari, mais ça n'a rien à voir avec l'émission.
Niveau du corps, on fera une autre émission sur les problèmes conjugaux.
Mais globalement, tous les patients se plaignent en fait que les efforts ne soient pas récompensés, que le sport, les régimes qu'ils mettent en place n'aient pas tout de suite répercussion et un effet sur la silhouette. Donc c'est surtout la rapidité des efforts mis en place.
Mais du coup, moi, je ne fais pas d'effort, donc comme ça, je ne suis pas déçu. Mais est-ce que vous avez vu un boom depuis ces derniers temps? Est-ce qu'avec il y a eu un effet confinement et peut-être la déconfinement? Énorme. Avec plus de consultations et plus de demandes?
Les gens, ils ont fait un tête-à-tête avec eux-mêmes et sur les webcams, surtout en Zoom, toutes les réunions qu'il y a eu, ils ont vraiment vu leur tête et ça n'a pas fait bim-bam-boum pour tout le monde. Donc franchement, nous, dans notre milieu de la médecine esthétique et même en chirurgie plastique, on a vraiment vu... beaucoup plus de monde parce que pour plein de facteurs parce qu'effectivement ils se sont vus, ils ont le temps de s'occuper d'eux, ils ont un peu d'économie et on a beaucoup moins d'interactions sociales, donc c'est le moment de faire aussi des choses. Parfois, il y a des répercussions, ça se voit, on doit se cacher quelques jours. Là, c'était le moment pour eux de faire toutes ces interventions. J'ai entendu dire que les dentistes aussi avaient...
Pour les dents, on est masqué, génial. J'ai dit patiente parce que je dis ça, mais je pars peut-être d'un principe qui est faux. J'imagine que c'est plus une patientèle féminine.
On a surtout des femmes, je dirais peut-être qu'en proportion, on doit être autour de 20% masculine pour la silhouette, 80% de femmes. Alors pourquoi est-ce que les femmes prennent plus soin d'elles ou est-ce que c'est la société qui leur met plus de pression? Sur l'apparence physique, ça c'est un débat sociétal.
Et du côté des hommes, ils ont quel type de demande? Moi, si je devais faire un truc, je pense que ce serait le ventre, non?
Ouais,
c'est
le six-pack.
Vous n'êtes pas si mal.
Oui, mais bon, le petit bidon là, de papa,
c'est
là...
Totalement, c'est l'abdomen. En prédilection pour les hommes, je pense qu'on verra d'ailleurs un petit boom post-euro-football à force de trinquer devant la télé et de crier des noms qui commencent par K.
C'est avant tout esthétique ou est-ce qu'il y a vraiment un réel handicap? Là, vous avez dit, les gens se sont vus en visio et face à eux, quoi, tout simplement. Mm-hmm. Ou est-ce qu'il y a vraiment un réel malaise? C'est-à-dire de se voir comme ça, justement, en Zoom ou autre, ça a créé même, je ne sais pas, des dépressions, de l'anxiété très forte, des problèmes psychiques importants.
Il y a de tout. Il y a surtout des personnalités plutôt saines qui ont envie de se prendre en main, qui ont entendu dire qu'on pouvait faire des choses sans être trop invasif. Et puis parfois, on tombe effectivement devant quelqu'un qui a un véritable handicap, qu'il soit psychologique, un complexe. C'est particulier, le complexe. Ouais. Parfois, d'ailleurs, il y a une dissociation entre la gravité de ce qui se passe et le ressenti de la personne. Et puis parfois même un handicap, là on parle de silhouette, un handicap physique. Les cuisses qui frottent quand on marche, on a des irritations, etc. Donc on voit un peu de tout. Mais globalement, surtout des gens qui sont plutôt sains et qui ont envie de se prendre en main.
Même si, d'une façon générale, en vieillissant, la peau, elle va manquer de tonicité, elle va se relâcher. À partir de quel âge ça commence? Est-ce que c'est déjà trop tard pour Mélanie et moi, ou est-ce qu'on a encore un peu de marge?
C'est gentil de vous inclure là-dedans. C'est le relâchement cutané, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qui est normal.
Et la déflagration commence à quel âge?
on parle de ménopause. En fait, tout se passe même quelques années avant, 4 ans avant. On parle de périménopause, donc à partir de, selon les patientes, entre 45 et 50 ans.
Mais vous parlez que des femmes, les hommes, ils n'ont pas la peau qui se relâche?
Les hommes, ils ne vivent pas la ménopause. Ils ont une andropause dans la plupart des cas, mais qui est beaucoup plus progressive. Donc ce fameux coup de vieux, eux vont le vivre de manière beaucoup plus progressive. En fait, au moment de la ménopause, on parle beaucoup d'ostéoporose, les os qui se fragilisent, qui perdent en minéralisation, mais il se passe exactement la même chose dans la peau, ça s'appelle la dermatoporose, la peau perd du collagène,
ça
elle devient
40,
moins 40, solide.
40-45 ans déjà, quoi, c'est ça?
Ouais, j'ai dit 45-50, hein, Mélanie, détente.
J'ai le temps encore.
J'ai encore un ou deux ans devant vous, Mélanie, tout va bien. Est-ce qu'à la maison, il y a des petits trucs qu'on peut faire, je sais pas, des massages drainants, ou est-ce que finalement, ça sert strictement à rien, si ce n'est se faire plaisir et se faire
avant
un truc...
vous voir quoi.
Oui,
bah, si c'est se faire plaisir, j'ai envie de dire allons-y, parce qu'il y a une façon de le fait de se masser, d'aimer son corps, de se faire du bien, je trouve que c'est de toute façon positif. Maintenant, si c'est pour s'acharner en se disant que ça va éliminer la cellulite avec si je mets des ventouses, des palpés roulés, pas toujours. On va utiliser des massages, pourquoi pas, pour deux raisons en fait, pour être drainant, pour faire des drainages lymphatiques, diminuer la rétention d'eau qui, elle, va amorcer comme ça des capitons sous la peau, ou alors carrément des palpés roulés assez forts pour casser.
On peut faire chez le kiné, hein, notamment, il y a des kinés qui font ça.
Exactement, on peut le faire aussi, ou dans des instituts d'esthétique, ils ont des machines qui vont casser, entre guillemets, les fibres.
Et c'est efficace, ça?
C'est un petit peu efficace. Le drainage marche pas mal, mais c'est tout à fait transitoire.
On ne pourra pas avoir une efficacité énorme, même si on fait plusieurs séances. Pour le coup, il faut passer à des choses un peu au-dessus. Pour les plus paresseux, j'ai vu même qu'il existait des leggings remodelants. Alors là, j'imagine que c'est juste visuel. Hein, ça doit rien
j'ai
faire.
Vu ça sur votre panier tout à l'heure, effectivement, sur l'ordinateur.
Je sais pas, la fille, elle avait l'air super avant, après le legging.
Donc j'ai dit, c'est une méga arnaque. Gardez votre argent.
Mais... Ça vaut quoi? Franchement, ça l'est un peu. C'est-à-dire, évidemment, il y a le phénomène gainant du legging, mais ils ont rajouté quand même dedans des petites molécules. Alors il y a deux façons. Il y a les petites microbilles qui viennent masser microscopiquement la peau. Bon, là, on est dans l'endermologie. Ouais. On va créer des petits mouvements. Ça va stimuler, entre guillemets, le derme. Et puis, des molécules qui vont drainer, en fait, ou aider un peu les cellules graisseuses à se purger, à se vider. Mais ça ne les élimine pas du tout. C'est microscopique.
Ouais. Je vous avais dit, Mélanie, c'est une mauvaise
idée. On va passer à la suite, alors. Hein, docteur Jourdan, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Marie Jourdan. Je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris, membre de la Société française de dermatologie. Et à présent, on va voir ce qu'il est possible de faire donc sans bistouri. C'est notre promesse du jour, hein, sans chirurgie. Quand la peau se relâche, on peut faire premièrement de la mésothérapie. Ce sont des mini-injections. Ça rebooste la peau, c'est ça?
Alors oui, ça c'est pour des petites zones au niveau des joues, au niveau de la face antérieure, devant, là, sur les bras ou au-dessus du genou, au-dessus du nombril, des petites zones, quand ça fripe, quand on a ces petits effets fripouillis, pourquoi pas, avant l'été, faire des petites injections. C'est de l'acide hyaluronique, c'est des vitamines, ça dépend. Mais globalement, c'est surtout un gel d'acide hyaluronique qui n'est pas du tout compact, qui ne donne pas de volume, qui vient juste hydrater. C'est un petit peu comme si on mettait de la crème hydratante anti-rides dans la peau et non pas par-dessus. Donc il y a un effet tenseur, hydratant immédiat, mais ça ne dure pas. Ça va durer quelques mois, entre 4 et 6 mois.
Et ça, pour mon petit nombril fripé, ou je ne sais pas, le petit beau, ce que vous décriviez au niveau du bras, il faut une séance, plusieurs séances
en
de
général,
mésothérapie.
En général, on fait deux séances espacées d'un mois. Et c'est quelque chose qu'on va faire juste avant l'été pour avoir l'effet optimal.
D'accord. Et l'effet, vous dites, il ne dure pas longtemps, c'est quoi?
Environ 6 mois, on va dire.
Quand même, c'est déjà ça. On sera bien pour l'été, quoi.
Exactement.
Alors, si on veut être bien pour l'été et aussi à la rentrée en hiver, est-ce que là, il faut utiliser des machines, on va dire, un peu plus performant, tout sophistiqué. Il y a la radiofréquence, le principe c'est de chauffer la peau, c'est ça?
Exactement, ce sont des machines qui vont chauffer en quelque sorte, c'est faire passer un courant dans la peau qui va être converti en chaleur. Le but en gros, c'est de chauffer très fort le derme, qui est l'intérieur de la peau, sans brûler l'épiderme. Donc c'est pas utiliser un matériel chauffant à la surface, sinon on brûlerait la peau. Donc chauffer le derme qui va contracter le collagène, entraîner même une dénaturation, une dégradation du collagène et donc la fabrication d'un nouveau collagène.
Et ça fait pas mal, parce que vous dites chauffer, vous nous rôtissez à combien de degrés avec
en
ce genre
vrai,
de truc?
Exactement, mais en vrai, dans le derme, ouais. on est à plus de 60 degrés.
Ah ouais, quand même.
Ce serait tout à fait insupportable, et ce serait l'effet d'une brûlure si on avait cette température-là sur la peau. Sur la peau, vous êtes à 42-43, l'effet d'un jacuzzi.
Un bon jacuzzi,
C'est un massage, souvent, ce sont des machines sous forme de massage. Donc plus on fait une zone un peu large, moins ça fait mal, mais en même temps, plus c'est large, plus le côté
gauche... Vous
restez
pas longtemps au même endroit,
exactement.
Donc ça chauffe pas tellement.
Il faut qu'on
arrive
à chauffer à, en gros, 60 degrés.
C'est pas trop désagréable quand vous la faites, la séance, les patientes elles disent quoi, en général?
Non, ça se passe très bien. C'est presque confortable, c'est un chauffage. Après, dans les radiofréquences, il faut savoir que c'est une famille extrêmement vaste qui réunit des machines qui ne sont pas du tout équivalentes. Il y a vraiment des machines beaucoup moins fortes que d'autres, beaucoup moins puissantes, beaucoup moins profondes.
Vous adaptez en fonction des cas, quoi.
Exactement.
Alors, vous l'avez dit, dans la mésothérapie, on peut traiter simplement quelques zones, mais là, avec la radiofréquence, on peut traiter l'intégralité du corps, même des zones un peu surprises, comme les tissus vaginaux aussi.
Oui, ça vous a frappé, ça. Hein.
Il existe aussi, c'est exactement les mêmes méthodes. La radiofréquence, elle a été développée sur le visage, sur le corps, pour retendre l'abdomen, pour retendre les cuisses. Et puis, depuis 5-6 ans maintenant, on fait de la radiofréquence en vulvo-vaginale, pour améliorer, pour retendre les tissus, notamment après des gros bébés ou des traumatismes obstétricaux. Ce qui fait que les patientes se sentent béantes, ont moins de sensations, ou ont des lèvres qui pendent, etc.
Ouais. Mais il y a une vraie demande pour ce type d'intervention. Enfin, aujourd'hui, oui, vraiment.
Oui, il y a une vraie demande parce qu'il n'y a pas d'alternative, en fait. Si on veut améliorer ces choses-là, on va dire aux patients de faire des rééducations du périnée. Mais le muscle qui est autour, c'est une chose. Mais la filière vaginale en elle-même qui a été distendue, elle, on n'a aucun moyen de la retendre, à part en faisant une chirurgie, un lifting vaginal, etc.
Mais comment on est après une... Alors, je ne parle pas forcément pour les tissus vaginaux, mais quand vous m'avez fait, admettons, une séance de radiofréquence comme ça, pour, j'en sais rien, mon ventre, admettons, je peux aller travailler l'après-midi. Enfin, vous me faites ça le matin, l'après-midi, je peux retourner au travail. Dans quel état je suis après la
avec
séance?
Avec une vulve repulpée, oui, bien retendue,
j'avais dit,
vous pouvez
aller
travailler. Mais en gros, si c'est sur le ventre, par exemple, on est rouge pendant 5 minutes. Il n'y a pas du tout de suite. Vous pouvez aller au soleil, vous pouvez faire la séance alors même que vous êtes bronzé. Donc, c'est des techniques qui ne souffrent pas comme ça de périodicité dans notre travail. Hein.
Alors, Mélanie nous parle souvent de ses paupières et de son cou. Moi, je dis que tout va bien, il n'y a pas besoin. Alors là, par contre, on utilise d'autres techniques, plutôt des ultrasons, c'est ça?
Avant, on utilisait la radiofréquence pour retendre tout ça. Et puis, depuis 10 ans, c'est vrai que la radiofréquence a été supplantée par les ultrasons sur les zones du visage, autour de la mâchoire, quand on veut retendre l'ovale en fait, du visage, le cou et les paupières tombantes. C'est ce qu'on a appelé, sur le plan marketing, le lifting médical. En fait, les ultrasons, on les connaît depuis très longtemps, on les utilise de manière comme ça éparse pour regarder, pour faire une imagerie, une échographie. Et en fait, quand on va les rapprocher, quand les faisceaux vont se focaliser à un endroit précis en profondeur, ça va chauffer très fort. Toujours pareil, tout en préservant la peau. On va traverser la peau sans encombre et on va chauffer très très fort à des points précis. Le tissu de soutien du visage.
Et là, c'est pareil, on peut aller travailler derrière. Comment on est après une séance?
Alors, là, on voit quasiment rien. Vous pouvez être un petit peu gonflé pendant 48 heures. Par contre, quand vous touchez votre visage, c'est comme si vous aviez pris un coup.
Ah ouais, quand même.
Donc, c'est une sensation un peu de contusion.
Ça coûte cher, les ultrasons? Je me renseigne comme ça,
les ultrasons, c'est beaucoup plus cher. Alors là aussi, il y a différentes machines. De toute façon, il faut toujours se tourner plutôt, évidemment, vers un médecin qui a des machines qui sont de meilleure qualité. Après, il y a eu des machines les plus chères qui sont la machine américaine. Ensuite, il y a eu des copies Chine, Corée, etc. Mais ce sont des machines qui coûtent plus de 2000 euros pour un ovale, les paupières, etc.
Alors j'ai un petit défaut, c'est que j'ai un nombril qui est fripé avec le temps, ça ne s'est pas
c'est
amélioré.
C'est les grossesses ça, je dis mieux.
Mais justement, est-ce qu'on peut faire des petites choses pour retendre le nombril?
Sur le nombril, je pencherai plus pour la radiofréquence, puisque en allant retendre tout l'abdomen, on va avoir un effet global sur le nombril et il fera moins la tête. Il faut faire quelques séances et ça marche.
Voilà, donc Jimmy, vous aurez un nombril heureux. Merci docteur Jourdan, ne bougez pas surtout, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Marie Jourdan. Je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris, membre de la Société française de dermatologie. Alors, juste avant, on a vu comment retendre la peau et quand elle est relâchée, on va dire. Et dans cette dernière partie, on va aller un peu plus en profondeur puisque vous allez nous expliquer comment faire fondre notre surplus de gras, de graisse. Là, on utilise encore la chaleur avec des micro-ondes. Rien à voir avec le micro-ondes que j'ai à la maison. Hein. Je ne mets pas, mais je n'ai pas de mettre mes cuisses dedans.
Bah, en fait, rien à voir, mais en même temps, c'est exactement la même longueur d'onde, c'est exactement pareil dans un micro-ondes. Les micro-ondes qui sont à la même, d'ailleurs, aux mêmes fréquences, 2,45 GHz.
On déconseille aux gens de mettre la cuisse dans le micro-ondes. On est
d'accord. Non, complètement, parce que elles sont balancées dans tous les sens, elles ne sont pas rappelées. C'est
Et puis surtout que votre cuisse ne rentre pas dans le micro-ondes. Enfin, non, excusez-moi, c'est surtout ça.
Elle est menue.
Alors qu'ici, il s'agit de micro-ondes qui sont adressées à la peau, qui sont rattrapées par une électrode derrière. Donc on contrôle exactement leur trajet, leur profondeur. Hein, ça, exactement. Ouais. Pour que la cible soit la graisse sous-cutanée. Toutes les machines chaudes, donc radiofréquences qu'on a vues auparavant, ont quand même du mal à descendre dans l'hypoderme vraiment profond, même si elles peuvent. Il se trouve que la micro-ondes y arrive encore mieux.
Elle va plus loin, en fait.
Exactement. Ça, hein, ouais. Et ça permet de chauffer très fort le gras sous-cutané. Et en plus, par diffusion thermique, cette chaleur va remonter à la peau. Et quand on chauffe la peau, ça la retend. Donc, double intérêt.
Ah, génial.
Et ce sera probablement un traitement de prédilection pour la cellulite, pour le gras sous-cutané, plus
la peau d'orange,
le besoin
capitons,
de retendre la peau pour camoufler ses capitons.
Mais du coup, est-ce que dans la même ambiance, vu qu'on parle de chaleur, si on fait du sauna régulièrement, alors je ne sais pas si ça va réouvrir, je crois que c'est peut-être réouvert, est-ce que ça pourrait avoir un peu un effet affinant sur la silhouette?
Pas du tout, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit de chauffer très fort dans l'intérieur du corps. Ça n'a rien à voir avec la température de la peau ou à la surface de la peau. Là, on est à nouveau à des températures de 65 degrés dans le gras. Si on fait un sauna, on n'est pas à 65 degrés dans le gras. On aura une température corporelle et cutanée externe élevée. Mais le gras, pas du tout.
Donc il lui faut du chaud et en profondeur au gras pour s'éliminer. Il faut combien de séances, par exemple, pour avoir un résultat? Je vais prendre un exemple sur une culotte de cheval pleine de cellulite. Là, vous allez faire combien de séances de micro-ondes?
La culotte de cheval, si. Parce que la culotte de cheval, on peut aussi diminuer le volume. S'il s'agit juste d'aller harmoniser, lisser et diminuer globalement le volume, il faut envisager entre 4 et 6 séances et se passer de 3 semaines.
Dès la première séance, on verra quand même des résultats ou pas?
Non. Première séance, c'est vraiment rare d'avoir un résultat. Après, l'avantage que ces séances soient espacées, c'est vrai que ça permet parfois à la troisième, quatrième séance d'avoir déjà une sensation. Les patientes rapportent une sensation de tonicité de peau avant même que la photo soit parlante. Donc ça peut nous rassurer nous-mêmes de dire c'est une patiente qui répond bien au chaud, on peut continuer. Après, si la culotte de cheval est très importante, on peut utiliser des techniques à froid pour diminuer, pour carrément tuer des cellules graisseuses en grande quantité de manière localisée et diminuer le volume.
Justement, là, sur les petits bourrelets là, que j'ai avec ma femme dont on parle, les petits poignées d'amour.
Oui, poignées d'amour.
Est-ce qu'on peut justement utiliser le froid pour essayer de s'en débarrasser?
Alors là, effectivement, quand le gras sous-cutané est localisé et qu'on peut l'attraper entre ses mains,
c'est ça
s'appelle un bourrelet.
Ça s'attrape.
Oui, ça s'attrape très bien. Oui, franchement, là, j'ai ma main dessus, là, tout va bien.
Ça tient dans la
main. Ça, c'est. On peut les détruire ou les diminuer.
C'est une bonne poignée, quand même, ce que je vois.
Oui, de deux côtés. Je veux dire, il y a bord à manger.
Mais rhabillez-vous. Mais ça, on peut. C'est des machines qui s'appellent des cryolithes. Et ces machines vont attraper, donc sous forme de ventouse en fait, elles vont attraper le bourrelet. C'est pour ça qu'il faut que si c'est trop petit, je veux dire, ça marchera pas. Il faut vraiment que ça puisse être attrapé par la ventouse de la machine. Et la machine va extraire la chaleur du bourrelet. Ça va être exactement l'inverse. Elle va refroidir l'intérieur du gras, bien plus d'ailleurs qu'elle refroidit la peau. Toujours pareil, il s'agit pas de poser un pack de glaçons sur sa peau, parce que pour le coup, il y aurait des lésions cutanées, etc.
Oui, j'ai déjà essayé. Je vous confirme ça.
Il a eu des engelures pendant 2 mois, mais ça n'a pas maigri.
En fait, le concept, c'est un peu comme quand vous mettez votre poulet du dimanche avec la sauce, etc. au frigo, vous vous rendez compte le lendemain que votre poulet, il va bien. La chair peut être mangée d'ailleurs avec un peu de mayonnaise, c'est délicieux le poulet froid. En revanche, la sauce et le gras a cristallisé dans le plat et n'est pas très ragoûtante. C'est un peu comme une gelée.
Oui.
Et ben c'est exactement ce qui se passe au niveau de votre corps. On s'est rendu compte que les cellules graisseuses étaient beaucoup plus sensibles au froid et cristallisaient avant même d'atteindre une température qui cristalliserait l'eau et donc la peau. Et c'est ainsi qu'on a pu fabriquer cette machine.
Mais moi, mon poulet du dimanche avec la sauce effectivement qui a cristallisé, quand je veux m'en débarrasser, je la jette à la poubelle. Là, elle va partir où? Parce que certes, vous allez cristalliser le gras, avec le froid va aller l'attraper, avoir une action dessus, mais il part où ce gras après?
C'est une très bonne question, parce qu'il y a eu plein d'études pour montrer justement qu'il n'y avait pas de pic de cholestérol qui passait dans le sang, etc. Cette destruction des cellules graisseuses est en fait très progressive. En fait, le froid va les cristalliser, va donner des messages. Ça va être un peu ambiance temple du soleil, secte, suicide collectif, où il va y avoir 30% du bourrelet graisseux qui va s'éliminer, mais progressivement. Et les cellules graisseuses
dans
vont
mon
mourir,
pipi, dans mon...
le sang, la lymphe, etc. Mais de manière progressive, ce qui évite les pics de cholestérol dans le sang.
Alors une fois que vous êtes débarrassé de ces petits bourrelets, si on veut essayer de tonifier le corps, est-ce que vous avez des machines justement pour essayer de renforcer un peu les muscles sans faire trop d'efforts. Hein,
parce sans que faire d'efforts. Lui, il aime bien les trucs de feignasse, alors allez-y. Hein, alors,
pour aller encore plus profond, on surfe aujourd'hui beaucoup sur ces nouveautés, de ces machines qui s'appellent des électrostimulations. Ce sont des plaques qu'on pose sur des zones où il y a des muscles. Et ces machines vont stimuler en fait, la contraction
musculaire.
Pour ça,
il faut qu'il y ait des muscles. Oui, c'est ça
alors,
le problème
pour
vous.
Tout le monde a des muscles.
Quand même, respectez-moi.
Ils sont plus ou moins atrophiés, voilà. Mais on en cachés. A tous. Hein. Et là, c'est intéressant. Alors, il y a eu, pareil, c'est l'électrostimulation, vous avez des petites ceintures que vous faites chez vous, vous avez des costumes qu'on enfile pour faire du sport dans certaines salles maintenant.
Ça marche mais, ou pas ces trucs
Oui, ça multiplie le degré d'effort, c'est très intéressant, mais là je vous parle de machines médicales qui tout simplement contractent le muscle, 100% des fibres musculaires
si
sont contractées.
Si vous faites sur mes abdos par exemple, ça équivaut une séance de votre machine d'électrostimulation médicale, ça équivaut
à
combien d'abdos?
Ça équivaut à 20 000 abdos.
Autant 20 000 abdos.
Alors, ce qui est assez étrange, c'est que sur le moment, vous êtes au courant. Vraiment, vous le sentez passer, ces abdos.
Quand même, ouais.
En revanche, il n'y a pas tellement de contractures ou de courbatures. Je veux dire, le lendemain, ça se passe plutôt bien.
Bon, j'espère qu'on viendra vous voir à l'œil, parce que là, franchement, là je vous dis, à la fin de l'émission,
j'allais temporiser quand même en disant, ça galbe. On voit, et déjà, il y a une tonicité qui apparaît sur la ceinture abdominale, par exemple. Ça galbe, ça augmente les muscles, mais c'est pas définitif. Il faut entretenir cet effet, voilà. Soit par des séances ad vitam, soit avec la reprise du sport.
Eh bien, on viendra vous voir plus souvent, il n'y a pas de problème.
Ad vitam,
sans sport.
Merci beaucoup, docteur Jourdan, d'avoir répondu à nos questions donc pour toutes ces précisions sur ces techniques qui nous aident à affiner, sculpter notre silhouette sans passer par la chirurgie. Bonne continuation à vous et merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique, les mots du quotidien, avec un éclairage sur un virus, enfin sur des virus, parce qu'il y en a toute une petite famille, vous allez voir, les papillomavirus. Savez-vous comment ils se transmettent, mais surtout, comment les éviter, prévenir leur infection? Car oui, c'est possible, au moins pour certains, grâce à la vaccination. On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Valentin Piovesan.
Papillomavirus, il me semble que c'est chez la femme, c'est un truc au col de l'utérus.
Il y a le mot virus, après papilloma, peut-être avec les papillons.
Non, une maladie qui se transmet par des rapports sexuels ou même par le toucher.
Il me semble bien que ça concerne les filles, les adolescents, vers 12-13 ans avant les premiers rapports sexuels. C'est pour les préserver.
On peut se faire vacciner contre le papillomavirus, c'est pas l'hépatite B ou un truc du genre?
Il y a des vaccins pour éviter de l'attraper. Moi j'ai déjà fait les trois injections contre le cancer du col de l'utérus.
Jimmy, on va parler virus et pas Covid pour une fois. Le ou les papillomavirus, même, pouvez-vous nous expliquer qui ils sont?
Les papillomavirus, c'est donc des virus, mais c'est une grande famille de virus, puisqu'on compte une centaine de variants. Et donc, certains vont être inoffensifs et d'autres vont être responsables de pathologies plus graves, notamment de cancer du col de l'utérus.
Et donc, il ne faut pas sous-estimer ce risque, hein, parce que ces virus peuvent toucher tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une vie sexuelle complètement débridée, parce que j'ai donné un petit peu le mode de transmission. Tout le monde peut courir le risque.
Oui, alors vous l'avez dit, c'est vrai que c'est la transmission, elle est essentiellement sexuel, et ce n'est pas que la pénétration, c'est aussi par la bouche, par les mains, ce qui veut donc dire qu'un préservatif ne suffit pas pour éviter d'être en contact avec le virus, et on estime d'ailleurs que 80% des hommes et des femmes vont rencontrer un jour, une ou plusieurs fois, ces virus, car ils sont extrêmement fréquents et très contagieux.
Mais une infection par un papillomavirus, parce que c'est ça le risque, on va détailler ça, c'est un cancer, mais est-ce que c'est nécessairement un cancer? Si j'attrape ce virus, est-ce que je vais avoir un cancer?
Non, la plupart des papillomavirus ne posent aucun problème. Ils vont parfois donner certains symptômes, comme des verrues génitales, donc là ça va être un peu embêtant. D'autres ne vont donner aucun symptôme et vont être éliminés tranquillement au bout de quelques mois, voire quelques années. La seule chose, c'est qu'on sait qu'il y a certains types de papillomavirus, notamment le 16 et le 18, qui, sur le long terme, peuvent développer et entraîner des lésions précancéreuses du col de l'utérus qui vont entraîner par la suite un vrai cancer si ce n'est pas pris en charge.
Alors je prends l'exemple justement d'une femme et du risque de cancer du col dont vous venez de parler. Comme on ne sent pas qu'on est forcément infecté, vous avez dit 80% des hommes et des femmes vont croiser un de ces virus à un moment donné. Avoir un suivi gynéco régulier, dépister très tôt, c'est important parce qu'en fait on pourra le traiter et le guérir de plus facilement en fait.
Oui, alors l'intérêt de la vaccination contre le papillomavirus, c'est justement d'éviter d'avoir ces lésions précancéreuses. Et dans les pays où on a une bonne couverture vaccinale, ce qui n'est pas le cas en France, on est aux alentours de 30%. Il faudrait qu'on soit aux alentours de 60% pour diminuer la circulation, eh bien on se rend compte dans des pays où on vaccine correctement les enfants que les lésions précancéreuses ont quasiment disparu. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça n'empêche pas de faire le frottis vaginal à partir de 25 ans, tous les 2 à 3 ans, puisqu'une toute petite lésion précancéreuse qu'on va voir avec le microscope pourra être suivie ou traitée pour éviter qu'elle évolue vers un vrai cancer.
Et très rapidement, aujourd'hui, la recommandation, c'est petite fille, petit garçon, de quel âge à quel âge, combien de doses ?
Exactement. Désormais, on peut vacciner les petites filles et les petits garçons de 11 à 14 ans avec un rappel possible entre 15 et 19 ans. L'idéal, avant le début de l'entrée dans la vie sexuelle, puisqu'on sait que le vaccin est très efficace avant qu'on le rencontre, le virus. On fait 2 ou 3 doses, ça dépend du vaccin, à quelques semaines d'intervalle. Demandez conseil à votre médecin, il pourra probablement mieux vous renseigner.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces explications.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, comme tous les jours. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question de Grégoire. Je vous la lis. J'aimerais bien parler de mes fantasmes à ma copine, mais j'ai peur qu'elle me juge et qu'elle ne les comprenne pas. Est-ce que je devrais lui en parler ? On a souvent des questions autour des fantasmes, Catherine. C'est chacun les siens. Est-ce qu'on peut vraiment juger, de toute façon, les fantasmes de nôtre ? On sait très bien que bon, bah, chacun a les siens, quoi. Voilà.
Oui, chacun les siens, certes, simplement, c'est sûr que vous savez que quand on est en couple, on est toujours dans l'envie de voir dans la même direction, et que quelqu'un puisse voir dans une direction très différente et peut-être choquante pour nous, peut tout d'un coup briser la confiance quant au regard, quant au geste posé sur soi, parce que selon les fantasmes qui sont les siens, eh bien, elle peut se dire, alors donc quand il me regarde comme ça, ou donc quand il fait ça, ou donc, et ce qui du coup vient polluer sa propre sexualité. Ceci étant, pour l'instant, ce que j'entends de la part de Grégoire, c'est qu'il voudrait bien pouvoir en parler, mais il a peur d'être jugé, donc la question est-ce qu'il juge lui-même ses propres fantasmes ? Est-ce qu'il y a matière à jugement ?
Parce qu'il ne nous détaille pas ses fantasmes, hein, donc
voilà,
je ne sais pas.
Mais peut-être, et il a raison, parce que comme vous le disiez, à chacun ses fantasmes, mais effectivement, il veut pouvoir en parler et à la fois, il a peur d'être jugé. Donc je crois que la première des choses, c'est de dire, j'aimerais bien de parler mes fantasmes, mais je crains ton jugement. Auquel cas, elle va dire, garde tes fantasmes. Ou,
moins c'est clair.
Ou alors, au contraire, bah, écoute, dis-moi un, on verra, et puis on avance tout doux, le cas échéant.
Si elle s'enfuit en courant, ne lui en donnez pas un deuxième, ça sert à rien.
Non, on évite. Mais aussi, ça pose la question, pourquoi je veux lui parler de mes fantasmes ? Est-ce que c'est parce que je veux absolument les vivre ? Auquel cas, je risque de vouloir enfermer notre sexualité dans un programme qui est mon excitation. Ou alors, est-ce que je veux les raconter parce que j'ai besoin qu'on me mette en paix quant à mes fantasmes, parce que quelqu'un les partage avec moi. Parfois, il vaut mieux aller les partager à ce moment-là avec un thérapeute qui ne va pas les partager sexuellement, bien sûr, mais va pouvoir les accueillir et permettre peut-être de les comprendre ou de les dénouer s'ils posent problème à la personne en question.
Oui, parce que là, Grégoire, il a presque la réponse à sa question. On comprend qu'il y a différents types de fantasmes. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut placer la ligne, mais si jamais son fantasme à lui, c'était, je ne sais pas, de faire l'amour à 4 femmes avec une trompette dans la forêt de Rambouillet, on peut comprendre...
Où est-ce que vous mettez la trompette ?
Non, mais la trompette, vous la mettez où vous voulez, mais on peut comprendre que ça puisse peut-être...
Je
ne
sais pas ce que vient faire cette trompette, là, tout d'un coup.
Mais ça veut dire qu'il peut y avoir... Il y a fantasme et fantasme. Si c'est faire l'amour dans un avion, bon, peut-être que c'est acceptable, entre guillemets, donc il se doute bien...
Je suis pas sûr que ce soit autorisé.
Non, mais c'est pas autorisé, mais on peut comprendre, voilà, c'est un vieux lieu commun, donc peut-être que... Ça dépend où on fixe la limite du fantasme. Et donc, il sait peut-être qu'il faut se taire et ne pas l'aborder, au risque peut-être de casser une certaine image qu'il pourrait renvoyer de celle qu'il est de conjoint ou de copain.
C'est ça l'avion que la trompette.
C'est sûr. Bon, on analysera la proposition de fantasme de Jimmy un peu plus tard. Mais en l'occurrence, je crois que oui, effectivement, pourquoi vouloir toujours ça ? C'est un petit peu la pornographie qui nous a invités à rêver, tout dire, ce qui me plairait, ce qui ne me plairait pas, ce qu'on devrait faire pour performer un peu plus. Et on vient bousculer le couple, alors que peut-être que si c'est un fantasme et qu'il m'excite et qu'il me permet, en l'occurrence, cet homme d'avoir une érection, bah, il a une érection et il en profite. Et il en profite dans le cadre de son couple. Si c'est quelque chose de plus praticable dans le couple, ben, il l'introduit petit à petit, puis il voit bien s'il y a une fin de non-recevoir ou pas. Et du coup, il n'y a pas un truc qui est arrêté en disant « c'est mon fantasme ». Si c'est être dans une position particulière,
qu'il le fasse, et puis voit,
et puis vous savez, d'un mouvement de main, c'est accueilli ou au contraire rejeté. Jusqu'à
avec ou sans trompette
Avec ou sans trompette.
C'est ça.
Mais est-ce que, du coup, tous les fantasmes valent le coup d'être vécus ? Est-ce que Est-ce que ça fait vraiment du bien d'assouvir un fantasme ou c'est juste l'idée qu'on pourrait avoir du fantasme? Et puis une fois qu'on le réalise, on se dit bon, bah, pff, finalement...
Je suis mauvais musicien.
On va vraiment rester dans l'orchestre. Non, en fait, je crois qu'en effet, tous les fantasmes ne méritent pas d'être vécus. Et je dirais même qu'ils sont effrayants quand ils sont vécus. Parce que pour nombre de fantasmes, ce qui est excitant n'est presque pas révélable. Et le vivre est même potentiellement anxiogène. Prenons un fantasme que nombre de femmes peuvent raconter, dans le cadre, en tout cas, et en être choquées elles-mêmes, hein, dans le cadre de la consultation, à savoir d'être prise à leur insu. Vous pensez bien que le prise à leur insu, dans le cadre de la vraie vie, eh bien, c'est ce qui les amèneront à crier haut et fort au scandale. Mmh. Et elles auront raison.
Bien sûr.
Et à l'abus, et elles auront raison. Donc, le fantasme est source d'une excitation parce qu'il raconte quelque chose entre soi et soi. Il n'introduit pas l'autre. Il projette sur l'autre des choses, mais il ne l'introduit pas. Alors qu'à partir du moment où on est dans l'expression et le vécu des choses, alors il y a des choses qu'on peut aller flirter avec le cas échéant, mais on y va et on, sans les avoir dit, ce qui nous permet de revenir en arrière si ça ne nous convenait pas. Mais se les raconter comme ça, c'est s'exposer à une dangerosité ou soi-même, ou exposer l'autre à une lecture rétrécie de soi-même, puisqu'un fantasme n'est qu'un fantasme.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous.
C'était Sans Rendez-vous avec Agipi. Pour vous protéger des aléas de la vie, découvrez l'assurance prévoyance Cap Agipi auprès d'un agent AXA et sur agipi.com.
Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Eh bien, eux, ils sont allés voir. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on a réuni Yuri Gagarin, Sally Ride, qui est la première femme américaine, et vous, Mathieu, évidemment.
Bah, évidemment,
notre héros national.
Notre star, Thomas Pesquet, qui fait des photos incroyables, qui balance sur Instagram. C'est un peu agaçant parfois, mais en même temps, c'est
l'homme parfait.
C'est l'homme
vous.
Un peu trop parfait.
Il est parfait, mais vous aussi, vous êtes parfait, messieurs. Très beau programme, on sera à l'écoute comme toujours avec Jimmy. Et vous aussi, bien sûr, restez sur Europe 1.